France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, quelle que soit l'heure de la journée, c'est l'apéro. Car c'est dans mon bistrot que je reçois Lionel Trouillot, cette grande figure des lettres haïtiennes. Attention, le voilà. Une figure des lettres haïtiennes entre dans ce bistrot.
Bonjour.
Bonjour Lionel Trouillot. Enchantée, Charline.
Lionel, enchantée.
Bienvenue à Paris.
Merci.
Je vous invite à vous asseoir près de moi.
Avec plaisir.
Allez, allons-y. Je t'en prie.
Charline Vaninacker. Bistroscopie sur France Inter.
Mais Lionel Trouillot, chin-chin alors. On a choisi orange pressé. Ça va être bien vitaminé cette interview. Dites-moi Lionel Trouillot, ça n'a pas été simple de sortir d'Haïti parce qu'il n'y a plus de ligne directe Port-au-Prince-Paris. Donc vous avez fait comment pour venir Lionel Trouillot?
Écoutez, l'aéroport international de Port-au-Prince est toujours fermé. Nous les Haïtiens, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais l'aéroport est toujours fermé. Donc pour laisser Haïti, il faut prendre un hélicoptère ou un petit avion qui fait le trafic. Et ça coûte les yeux de la tête. Bon, sortir d'Haïti, c'est une galère, mais pouvoir sortir, c'est déjà être un privilégié.
Mmh. Vous êtes venu en hélico, vous, alors?
Alors, tu fais Port-au-Prince-Cap en hélico, et ouais. Maintenant, quand on arrive au Cap, il y a des vols sur Miami ou sur la Guadeloupe. Moi, j'ai préféré passer par la Guadeloupe. J'évite un peu les États-Unis ces derniers temps.
Bah, merci d'être arrivé jusqu'à nous. Et vous évitez les États-Unis, mais pendant que vous preniez l'hélico, puis l'avion, puis la Guadeloupe, il y a 3 navires de guerre américains qui sont entrés dans la baie de Port-au-Prince. Ils ont profité que vous n'étiez pas là pour rentrer dans la baie, là.
Ah, je pense pas qu'ils prêtent attention à ce que moi je pense. D'ailleurs, ils prêtent pas du tout attention à ce que pensent les Haïtiens. Les États-Unis sont, on peut le voir ailleurs dans le monde, dans une logique de guerre et ils n'écoutent que leur puissance. Ce qui se passe en Haïti, c'est que les États-Unis bloquent quelque part tout véritable processus démocratique pour arriver à l'élection d'un gouvernement qui serait choisi par le peuple. Ils avaient imposé Michel Martelly, qui n'avait pas été élu, mais les États-Unis l'avaient imposé. Ils avaient un peu imposé Jovenel Moïse. À la mort de Jovenel Moïse, ils nous ont imposé un premier ministre désigné par un tweet.
Puis il y a désigné par
un tweet.
Un tweet. Ah, un tweet. Exactement. Ah ouais, carrément.
Carrément. Et puis il y a eu cette tentative-là qui arrive à terme le 7 février, de créer un pouvoir un peu sur une base consensuelle avec un conseil présidentiel issu d'organisations politiques et d'organisations de la société civile, lequel conseil présidentiel a nommé un premier ministre. Et les États-Unis ont décidé qu'il fallait se débarrasser du conseil présidentiel et garder le premier ministre. Comme s'ils considéraient Haïti non pas comme une société, mais ils nomment un directeur exécutif et ils veulent l'imposer par les armes, d'où la présence de leur bateau de merde là-bas.
On va bien sûr revenir à un moment sur la situation dans votre pays. Et je voudrais, avant qu'on commence à parler du roman que vous venez de faire paraître au mois de janvier, qui s'appelle Bréviaire des Anonymes. Déjà, comment se porte le livre en Haïti?
Ah, c'est compliqué. Vous savez, il y a une grosse foire du livre, ça s'appelle Livre en folie, qui a lieu tous les ans et qui fonctionne. Mm-hmm. Et qui réunit beaucoup d'auteurs, beaucoup d'acheteurs aussi. Et il y a de multiples petites foires dans le pays, dans les lieux où c'est encore possible.
Et à la rentrée de janvier, vous avez fait paraître ce roman, Bréviaire des Anonymes, paru chez Actes Sud, où votre héros est un évaluateur itinérant des biens culturels. C'est-à-dire qu'il est envoyé dans une ville de la côte haïtienne, on ne sait pas laquelle, en tout cas c'est une ville assez déserte, il y a juste un bar, pour faire l'inventaire d'une bibliothèque qu'un riche citoyen, un médecin, a léguée à l'État. Alors, déjà, vous éloignez le héros et donc aussi le lecteur du chaos de Port-au-Prince. Et on rencontre des anonymes, parce que ces anonymes du lieu, ils viennent hanter l'esprit du héros, ils viennent comme le visiter. Et donc le lecteur fait connaissance avec ces anonymes auxquels vous donnez la voix, comme dans toute votre littérature, comme cette petite fille bossue qui finira lynchée par une secte évangélique. Je voudrais qu'on commence par que vous nous racontiez qui sont ces anonymes qu'on croise dans votre roman.
À ceux qui sont en train de passer dans la rue ici et qu'on ne voit pas, les petits destins qu'on pourrait dire ordinaires. Alors je considère tout destin humain comme étant extraordinaire, simplement, vous savez, il y a le pouvoir et il y a tous ceux qui n'ont pas le pouvoir qu'on peut considérer comme des anonymes ou comme des personnages un peu, un peu secondaire. Donc ce que j'ai tenté, en toute modestie, mais avec une volonté de mettre un peu de désordre dans ces discours de l'autorité, c'est justement de laisser ces discours qu'on n'écoute pas venir troubler la cohérence, l'ordre, l'ordonnancement du discours dominant.
Mais si les anonymes parvenaient à se fédérer dans un monde idéal, leur voix, elle aurait du pouvoir ?
Ah, ça ferait une belle insurrection. Moi, j'arrive pas à la question du pouvoir, comment les anonymes vont gérer le pouvoir, j'arrive pas là. Je crois que mon petit livre s'arrête justement à cette puissance de l'insurrection. Je pense que le pouvoir fossilise le discours. Je demande pas de pouvoir. Je demande que les discours soient mis à égalité. Alors, si on arrive là, on va peut-être décider de formes de pouvoir qui pourraient mettre tout le monde d'accord et perpétuer cette égalité qu'il faut souhaiter. Mais pour l'instant, on va pas dire « Ah, ce serait dangereux si tout le monde se mettait à parler », alors qu'il y en a qui monopolisent la parole. Laissons d'abord parler tout le monde, après on verra ce qui se passera. Moi, j'aime dire qu'il faut, si on veut être humain véritablement et en harmonie avec les autres, il faut peut-être essayer de passer derrière leurs yeux pour regarder le monde et entrer dans leurs oreilles pour entendre ce qu'eux entendent du monde. Donc c'est ça que j'essaie de faire dans les petits livres que j'écris.
Et aujourd'hui, comment vous observez ces gens ? Comment vous vous mêlez à eux ? Et puis surtout, est-ce qu'il y en a certains, j'imagine, qui sont démunis, qui sont délaissés, qui sont déclassés, mais peut-être qu'ils vous lisent et qu'ils savent que vous parlez d'eux ?
Oh, je pense une fois, j'ai rencontré une dame que je connaissais pas du tout. Je la croise dans une rue de Port-au-Prince, la meilleure. Une dame bien mise, mais quand même un peu modeste. Et elle me dit, vous êtes Lionel Trouillot ? Je lui dis oui. Tout étonné, elle me dit, monsieur, merci de ne pas nous trahir. Je crois que c'est le plus beau compliment que j'ai reçu dans ma modeste carrière d'écrivain. Ne pas trahir les gens. Moi, j'écris des romans de la difficulté, c'est jamais des romans du bonheur, avec des discours très critiques sur certains aspects de la société haïtienne, mais j'écris pas des livres du désespoir ou des livres de la caricature. Ça, je déteste. Il faut au contraire, si on se mêle d'écrire, il faut au contraire essayer de faire voir une grande quantité de réel et tous les aspects contradictoires de la vie. C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont issus je dirais les classes moyennes défavorisées, milieux urbains modestes, qui lisent et je pense que c'est une bonne chose.
Parmi ces anonymes, il y a une petite fille bossue qui s'appelle Mani. Vous lui donnez un nom bien sûr, parce que l'idée est que ses voix ne soient plus anonymes, et elle est victime à la fois de sa famille, parce qu'elle porte le diable sur le dos quoi, et d'une secte évangélique. C'est toujours vraiment la plaie, là, les sectes évangéliques,
pour
là, en
moi
ce moment.
Ouais. Pour moi, c'est l'une des plaies de la société haïtienne depuis la décennie 80. C'est sous la présidence de Jean-Claude Duvalier que ces églises ou ces sectes commencent vraiment à pulluler en Haïti. Et je me rappelle, à l'époque, nous avions une revue avec quelques amis, ça s'appelait Les Cahiers du Vendredi. Et en 1986, nous avions publié un article dans cette revue dont le titre était « L'invisible invasion ». Et il y a quelque chose qui se passe avec ces sectes. Évidemment, là, je ne veux pas être lapidaire, puisque tout est porteur, comme je le disais, de contradictions. Donc, il y a parfois des discours humanistes, il y a parfois des discours même progressistes à l'intérieur de ces sectes, mais c'est plutôt rare. Là, je parle de la dominante. La dominante me semble être un discours de désocialisation, c'est-à-dire le soir même du tremblement de terre. En 2010, moi, j'ai vu des gens, puisque j'ai marché pendant plus d'une heure dans les rues de Port-au-Prince ce jour-là, il y avait des gens sous les décombres, il y avait des gens qui disaient « Bien fait pour toi, c'est parce que tu n'as pas suivi la volonté de Dieu. » Donc ça arrive à ce point-là. Ensuite, un grand nombre de personnes qui fréquentent ces églises ne s'identifient plus à une quelconque forme de citoyenneté. Leur seul lien social est avec celles et ceux qui participent de cette secte, si on peut dire ça comme ça. C'est une expression courante. Tu rencontres quelqu'un, tu lui dis bonjour, comment ça va, et la personne te répond dans quelle église vous marchez. Alors, c'est en français, dans quelle église tu marches, littéralement. Et dépendamment de la réponse, tu vaux le bonjour ou tu ne vaux pas le bonjour. Donc c'est un processus terrifiant. Et ensuite, il y a une grande part d'obscurantisme. Ensuite, faut bien comprendre que c'est pas du tout l'humanisme christique du Nouveau Testament, c'est pas l'évangile de Jean. C'est la violence des livres comme en les juges dans l'Ancien Testament.
Donc on en revient au livre. Et ce héros, il est chargé de dépoussiérer tous les livres, de les ranger, parce qu'une bibliothèque a été léguée à l'État. Lionel Trouillot, vous, quand vous étiez enfant, vous aviez une bibliothèque à la maison. Elle ressemblait à quoi ?
Ah, pas à celle-là. C'était une bibliothèque, quand, évidemment, il y avait les livres, les biographies. D'ailleurs, mon père lui-même a écrit un dictionnaire biographique d'Haïti, donc il y avait les grands noms, mais il y avait aussi il y avait Jules Vallès, il y avait toute une littérature qui n'était pas une littérature, si vous voulez, pour les riches. Hein. Il y avait Zola. La bibliothèque dans laquelle j'ai grandi était quand même plus riche d'émotions humaines, de sentiments humains. C'était pas cette bibliothèque un peu des grands.
Ah oui, celle qui est dans votre roman, c'est celle des grands. Ouais. Et quand vous êtes enfant, quel livre vous tombe dans les mains en premier ?
Alors là, mes parents étaient de ce point de vue-là libéraux. J'utilise l'adjectif dans le bon sens du terme ici. J'ai pris Jésus Lacaille de Francis Carco. J'avais 11 ans, évidemment, j'ai rien compris, mais personne n'est venu me dire c'est pas une lecture pour toi.
Et ça vous a pas découragé ?
Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, maintenant que je suis adulte, ça veut pas dire que je comprenne beaucoup plus.
Mais quand est-ce que vous allez comprendre alors ? Il serait temps quand même.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'on écrit, pour essayer de comprendre.
C'est vrai. Et quand vous grandissez, c'est sous la dictature aussi. J'imagine qu'il y avait des livres qui étaient interdits.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui. Moi, j'ai grandi à l'époque des livres interdits et la chose allait même jusqu'à la caricature puisque il y avait cette synonymie rouge égale communiste. Quand vous aviez les tontons Macoutes des Duvaliers qui fouillaient une maison, s'ils trouvaient un livre dont la couverture était rouge, vous étiez en danger.
Il y en avait chez vous ?
Je pense qu'il devait en avoir. Vous savez, on a tous vécu un peu dans une sorte de semi-clandestinité, avec des choses plus ou moins cachées. Même des gens, je me rappelle, dans mon enfance, le grand romancier haïtien Émile Ollivier, qui avait été poursuivi par la dictature. Moi, j'étais tout jeune, j'étais enfant. Un jour, j'ai demandé à ma mère quel était ce grand jeune homme qui vivait un peu... On avait ce qu'on appelait une sorte de remise, une sorte de petit garage, on appelait ça une remise. Et il était là, je demandais à ma mère, qui c'est ce grand jeune homme ? Elle me fout une baffe. C'est pas une baffe méchante, c'est une baffe pour nous sauver la vie à tous, quoi. De quoi tu te mêles ? C'est après que j'ai su que Émile Ollivier, le grand romancier, il est resté caché à la maison quelques jours. C'était un peu comme ça dans toutes les familles.
Et après, quand vous demandez maintenant où est-ce qu'il est, vous reprenez une autre baffe, c'est ça ?
Ah oui, il faut pas demander.
Faut pas demander. Pas poser de questions dans ces cas-là.
C'est une enfance du murmure, il faut pas poser de questions, quoi.
L'oncle du narrateur, il est politicien. Au départ, un peu idéalisé, et puis bon bah...
Idéalisé par son neveu.
Oui, par le neveu, ouais. Et puis après, bon, bah, ça devient le portrait du politicard assez universel, d'ailleurs, je dois dire, et puis aussi de Port-au-Prince, j'imagine. Qu'est-ce que vous voulez dire de la politique à travers ce portrait ? Parce que ce politicien, il veut rester au centre de la table. Ça, c'est universel, ça, non ?
Est-ce que c'est pas ce qui se passe partout dans le monde, justement ?
Ouais.
J'aime bien les Occidentaux, quelque part. Vous faites des élections, vous allez élire des gens sur des programmes qu'ils ne vont pas respecter. Vous êtes dans un système qui se dit fondé sur la représentation et on se rend compte de plus en plus que les politiciens ne représentent plus personne. Ils représentent leurs intérêts personnels, ils représentent leur propre durée.
J'ai l'impression que vous nous caricaturez un petit peu.
Au pouvoir. Ah, écoutez ça, je ne ferai que vous rendre l'appareil. Parce que... Depuis le temps que j'entends Haïti, le pays le plus pauvre d'Amérique, le pays... Là, si je vous caricature, je commence à peine.
Et est-ce que les Haïtiens se caricaturent eux-mêmes aussi ? Est-ce qu'il y a un peu la place pour...
Il y a beaucoup d'humour.
Ouais, évidemment, il y a de l'humour.
Évidemment,
alors, comment ils se caricaturent, les Haïtiens ?
Oh, de différentes façons. Ah oui, mais c'est un pays qui se moque un peu de lui-même.
Ouais. Quel humour il y a ? Est-ce que c'est plus en créole, en français ? Est-ce que c'est différent ?
Plus en créole, bien sûr.
Ouais. Il y a des bonnes blagues en créole ?
Ah, il y en a beaucoup, oui.
Vous en connaissez une, là ?
Ah, ça va être difficile de traduire.
Ah.
Il est peut-être plus facile de traduire un poème que de traduire une blague. Hein. C'est...
Ah bah faisons ça. Attendez, je vous mets au défi. J'ai entre les mains Anthologie de la littérature haïtienne, paru Mémoire d'Encrier. Évidemment, il y a un chapitre qui vous concerne. Parce que quand même, Lionel Trouillot, c'est quand même quelqu'un. Tiens, il y a un petit poème en créole. Comme ça, on entend du créole à la radio française. C'est pas mal, quand même. Le premier, là, puis, vous pouvez le lire et puis nous traduire après.
C'est moi qui ai écrit ça.
Ouais, bah apparemment. Hein.
Alors, poème en chute libre. Mon pied bois fatigué, écris mon lettre en mal d'enfance. Côté les balles tombées tirées, timoun fait mouton bain. Yon ciel bléwa en balang yo. Comme si toute l'enmer était entrée dans coquille. Code qui était folle non kou moun fou, trop loup pour bras. L'angélis pagador tout elle, des potes grand prison. Je m'arrête là.
Ouais.
Alors, ça s'appelle poème en chute libre.
Ouais.
Un arbre fatigué m'écrit une lettre en mal d'enfance. Où les balles tuent des enfants qui font baie comme des moutons. Un ciel bleua sous leur langue.
Lionel Trouillot. Il y a 30 ans, les critiques littéraires en France, ils vous décrivaient comme le scribe nerveux de sa génération. J'ai l'impression que vous êtes toujours, toujours bien énervé.
Oh, énervé de temps en temps, mais pas plus que ça. Peut-être même plus radical dans mes positions, mais au niveau de l'expression, je pense que on perd de l'énergie avec la vieillesse et je suis un peu comme dans le poème d'Aragon, étranger à moi-même, je vois des situations où autrefois j'aurais gueulé, on dirait qu'aujourd'hui j'ai plus l'énergie pour gueuler, ouais, j'ai même plus le droit de fumer, donc j'ai cette pipe sans tabac, donc
non, c'est une fausse pipe.
Non, c'est pas une fausse pipe, la pipe elle est vraie.
Ouais.
Mais
une pipe sans tabac.
Ouais, mais je l'allume rarement. Déjà qu'en Occident, c'est impossible de
fumer. Mais attendez, montrez, mais il n'y a rien dedans.
Non, là, il n'y a rien dedans, mais ça, il m'arrive de l'allumer quand même.
Ah, quand même, des fois.
Là où vous pouvez fumer la pipe, on va vous dire l'hygiénisme à la mode va vous rendre la vie impossible, comme si votre pipe, elle va tuer tout le monde.
C'est l'ancêtre du vapotage, en fait.
Mais moi, j'aime bien. Il y a un grand poète haïtien, Sito Cavé, qui fait pareil avec sa pipe. Il dit, bon, ça nous évite de nous sucer le pouston, quand même.
C'est vrai. Ça vous donne un sacré style, hein, avec votre chapeau, vos lunettes, votre pipe, là, comme ça. C'est du air-pipe, parce qu'il n'y a pas de fumée qui sort. Lionel Trouillot, est-il vrai que vous ne pouvez pas écrire un roman sans avoir la première phrase et la dernière phrase ?
C'est vrai.
Je vous crois pas.
Si, c'est vrai.
Ouais ? Donc là, par exemple, je vais prendre Bréviaire des Anonymes.
Ouais.
Paru chez Actes Sud. Alors, la première ligne, elle est dans la bouche de la petite bossue. Elle dit, le plus grave, c'est ce qu'ils t'ont fait à toi. Je prends la dernière ligne.
Et Mani ne meurt pas.
Ouais. Allez, on recommence, et Mani ne meurt pas.
Ouais.
Donc ça, vous l'aviez en tête, pour savoir Totalement. Où vous alliez aller.
Totalement. Bon, je pense que c'est des détails de...
Mani, c'est la bossue. Hein.
Oui, c'est des détails de cuisine qui n'intéressent pas forcément les lecteurs. Mais moi, j'écris comme ça, il n'y a pas de règle, bien sûr. Moi, il me faut le titre, déjà. Mmh. Il me faut le titre parce que pour moi le texte, c'est une sorte... C'est un objet concret. Et cet objet, c'est aussi un système. Donc, quand le titre, pour moi, c'est le nom du système. Et ce système, il est fondé sur... Hein, même s'il y a des digressions, même s'il y a des écarts, il n'y a pas de linéarité forcément, il y a quand même une cohérence interne du système. Et donc, quand les livres se mettent en... Les personnages, les situations, tout se met en place, et il y a un moment où le livre finit par me descendre dans la main. Et quand il me descend dans la main, c'est parce que j'ai trouvé la première phrase.
Le livre vous descend dans la main.
Oui, parce que j'écris des livres quand ils sont un peu finis dans ma tête. Donc, quand... C'est pour ça que le temps de la rédaction est... Le temps de la rédaction, hein, je veux pas... peut être assez court. Et il me faut la première et la deuxième phrase. Il m'est même arrivé de tricher une fois que... Avec le livre Les Enfants des Héros, c'était très facile parce que la première, c'était la dernière. Donc c'est la même qui... Donc là, j'avais un peu triché. Mais pour moi, c'est fondamental. C'est comme si tout ce qui se passe entre cette première phrase et cette dernière, c'est une sorte de chemin. C'est une sorte de chemin, mais comme je dis, c'est juste une méthode. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça une, une méthode, ouais, ouais, c'est une façon de faire.
Je voulais percer le système Trouillot. Dites donc, pensez pas qu'on était là pour beurrer les sandwichs, Lionel Trouillot, quand même. Ah ben voilà. Lionel Trouillot, vous venez d'un père enseignant et avocat, qui écrivait beaucoup aussi, d'une mère infirmière, qui travaillait notamment au dispensaire, donc au contact des démunis aussi. Famille plutôt d'intellectuels, d'écrivains. Alors, déjà, enfant, vous arriviez, une famille pas riche, mais aisée, mais pas riche, à entrer en contact avec la population des rues, des bidonvilles, Cité Soleil, tout ça?
Ah non, j'ai eu une enfance presque barricadée. Pas autant que celle de mes sœurs, parce qu'elles, en plus, elles avaient le poids d'être des filles. C'est dans ma vingtaine que j'ai commencé à voir toute cette Haïti qui était un peu interdite. D'ailleurs, mon premier roman, Les Fous de Saint-Antoine, ma mère ne l'aimait pas beaucoup, parce qu'elle disait que j'étais un menteur. Parce que moi, j'ai grandi dans ce quartier de Saint-Antoine qui était un quartier des classes moyennes relativement stable, aisé, officier de l'armée, profession libérale, médecin, avocat. Et ça, c'était la rue principale. Mais derrière, il y avait tout ce bidonville en construction que je n'avais jamais vu. C'est quand j'ai eu ma vingtaine que j'ai commencé à fréquenter ces quartiers que je me suis dit, il y avait tout un monde là. Et quand j'ai parlé de cette vie-là dans mon livre, ma mère m'a traité de menteur. Mais j'ai pas menti, ce monde-là existait, sauf que...
Il était derrière la maison, elle l'avait jamais vu.
Et là, on voit que c'était une autre vie. Il n'y avait pas l'évidence de la pauvreté, il n'y avait pas cette sorte de sale vie qui est celle des bidonvilles et des quartiers populaires de Port-au-Prince.
À l'adolescence, vous passez 7 ans à New York, vous suivez votre mère qui est partie s'installer aux États-Unis. Dans ces cas-là, vous venez d'une famille d'intellectuels, vous prenez des livres dans la valise.
Pas de livres dans, non, pas de livres dans les valises. Il faut bien penser qu'à l'époque, c'est un peu un sauve qui peut. Les gens partaient pour des raisons économiques, par peur de la situation politique aussi. Et puis en ajoutant à cela des raisons personnelles, je pense que ma mère a très mal vécu le divorce de mes parents. Donc quand je suis arrivé aux États-Unis, maigre, tout petit, 3 mois après, j'avais pris une 50aine de kilos. J'étais devenu une sorte de petit monstre. J'ai survécu par la boulimie. Puis la seule chose positive, c'est que là, j'ai pu lire le grand auteur américain dans le texte.
Pourtant, dans les sous-sols à New York, vous n'aviez pas un petit peu de sport, bagarrer avec la... Vous entraînez à vous bagarrer avec la diaspora, histoire de faire un peu la révolution en distanciel.
Ouais, on croyait qu'on allait faire la révolution à partir des sous-sols de New York, mais on s'est vite rendu compte que ça n'avait pas de sens, que c'était totalement... Vous savez, une chose qui est arrivée à une partie de la gauche haïtienne, c'est qu'on ne connaissait pas le pays. On voulait le changer véritablement, mais on ne le connaissait pas. Donc il y a eu beaucoup de bonne foi gaspillée. D'ailleurs, déjà, bon, fonder un mouvement révolutionnaire haïtien sur la classe ouvrière dans un pays où il n'y avait pas à l'époque 40 000 ouvriers, c'était déjà totalement illusoire. Et donc je pense que les écarts sociaux sont bien plus importants que ce que nous avons pu croire. Quand j'ai commencé, parce que justement je me suis intéressé à un art martial haïtien, le bâton haïtien, et je suis allé apprendre des paysans jusqu'à devenir moi-même un maître, je me suis rendu compte que souvent je leur parlais, ils ne comprenaient pas ce que je disais, pourtant on parle tous créole, et eux ils me parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. D'ailleurs, le grand maître sur lequel j'ai écrit un livre, après quand je suis allé le voir, il me pose une question toute simple en créole. Bon, je dis d'abord je vais apprendre, on m'a dit que vous êtes le meilleur maître. J'y donne mes références, il me dit d'accord, ces références-là, ça va. Et il me dit, est-ce que vous mangez viande? Mangez-vous de la viande? Alors le type dont je vous parle est un grand mangeur de viande. D'ailleurs, il y a un plat régional à l'Artibonite, fait avec de la viande. Tout maître du bâton qu'il est, si vous voulez manger ce qu'on appelle un lalo, un bon lalo, c'est lui qui le fait personnellement. Donc moi, je comprends rien à sa question. Bien sûr que je mange de la viande. Et continue la conversation, et 5 minutes passent, je ne le vois plus. Et il dit aux autres qui étaient là, mais pourquoi le maître a disparu? Et ils me disent, mais vous ne le reverrez jamais plus. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ils me disent, il vous a demandé si vous mangez de la viande, et vous avez répondu oui. Je dis, mais je ne comprends pas. Il me dit, c'est pas ce qu'il vous a demandé. Il vous a demandé, est-ce que vous êtes venu apprendre le bâton dans l'intention de faire du mal à quelqu'un, donc le blesser dans sa chair? Voilà comment il fallait interpréter l'expression « manger viande ».
C'était une métaphore.
Et pourtant, je parle créole, je crois être un pas trop mauvais poète.
Ah ouais, donc le quiproquo qui a tout foutu en l'air.
Il y a tout en cela. Il y a tout dans cela. Alors après, je l'ai retrouvé, j'ai dit non, dans ce sens-là, je mange cher, tellement pas de viande.
Donc, c'est-à-dire que
et voilà comment on est devenus les meilleurs amis du monde. Je vous dis que j'ai écrit un livre sur lui, mais il y a beaucoup d'écarts.
Oui, on peut se fracasser le nez quand même sur la réalité. De passer de la théorie à la réalité, c'est quelque chose. Est-ce que c'est pour ça qu'à 18 ans, malgré la vie de votre famille, vous rentrez en Haïti, en fait ? Vous quittez New York, vous auriez pu rester ?
C'est un peu loin maintenant, mais il y a beaucoup de raisons. Déjà, il y avait une intention politique sincère, puisque j'étais déjà dans des groupes et on avait compris qu'on ne pouvait pas renverser la dictature à partir des sous-sols de New York. Donc il fallait penser au retour. Et moi, j'étais le plus jeune de la bande. Je n'étais pas encore brûlé, comme on dit. En plus, mon père était bâtonnier de l'ordre des avocats, professeur émérite à la faculté de droit et... Un trouillot qui fait le droit en Haïti, c'est chose normale. Donc c'était déjà une première raison. En plus, je m'emmerdais à New York, je faisais que grossir. Je voulais pas suivre le chemin qu'a suivi mon frère Michel Rolf Trouillot, qui est devenu un anthropologue de renommée internationale, c'est-à-dire m'inscrire dans le cursus universitaire américain. Je pense que j'avais besoin de trouver cette humanité-là que j'avais frôlée sans jamais vraiment... Voilà, la fréquenter, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont renvoyé...
Qui vous ramènent en Haïti.
Ouais.
Vous participez aussi et cofondez le collectif Non, pour participer à la destitution d'Aristide.
À la deuxième fois.
La deuxième fois.
Pas la première, parce que c'est important de faire la différence.
Comment on fait dans ces cas-là ? On part d'où ? Ça peut nous servir, même nous ici en Occident, pour plus tard, on ne sait pas.
Mais non, vous croyez que l'histoire est finie quelque part, vous avez trouvé une stabilité, une sorte... d'éternité dans votre démocratie formelle. Vous n'êtes pas foutu de faire la révolution, et ça, c'est pas vous.
Encore une fois, moi, je suis belge. Hein. La révolution, c'est pas...
Mais je sais pas. Bon, là,
j'aime bien quand vous nous renvoyez dans les cordes. Comme ça.
Je sais pas, il y a des moments où l'histoire vous force à vous déplacer. Et puis, je crois encore au devoir, à cette sorte de devoir pétitionnaire dont parlait un Jean-Paul Sartre. Je pense qu'il faudrait que les... On le relise un peu, et qu'on cesse de dire du mal de lui sans avoir vraiment visité sa vie ni son œuvre. Il y a un moment où il y a des choses qui se passent et qui sont de l'ordre de l'inadmissible. Si vous avez un peu de notoriété, il faut vous voir dire non, merde, ça c'est pas normal, c'est inadmissible.
Mmh. Relire Sartre, oui. Et donc ensuite, vous participez au gouvernement de transition, au cabinet du ministre de la Culture. C'était une belle période, là, pleine d'espoir, où il fallait reconstruire. Vous avez souvenir d'avoir fait des choses...
On a tenté des choses, mais là encore, vous avez eu la domination de l'international. C'est hélas ce qui risque de se passer aujourd'hui, puisque nous sommes à la veille du 7 février. Il va falloir prendre des décisions.
On y est là, d'ailleurs, oui.
Il va falloir prendre des décisions politiques. À chaque fois que ce pays tente d'établir un consensus pour créer une sphère commune de citoyenneté, les puissances occidentales le forcent à entrer tout de suite dans une parodie de démocratie formelle qui ne peut conduire qu'à une mascarade. Et disons que les États-Unis, avec leur bateau, imposent une soi-disant logique électorale tout de suite, en disant les élections en août.
Je rappelle qu'il y a 3 bateaux américains de guerre dans la porte.
Vous savez, s'il y a les élections en août, ce sont les ambassadeurs des pays occidentaux qui vont élire le président. Ça va durer 3 mois comme stabilité. Au bout de 3 mois, les Haïtiens vont dire c'est pas ce qu'on voulait. Et on repart pour une énième. Transition. Il faut un peu foutre la paix à ce pays, laisser les Haïtiens se dire, bon merde, voilà comment on va faire. Oui, il y a du chaos, mais forcément il y a du chaos, puisque c'est un pays qui est arrivé au bout d'une logique d'inégalité que la politique ne peut plus réguler. C'est ça la situation haïtienne. C'est trop d'inégalités, trop d'écarts sociaux, la politique telle qu'elle se faisait à l'ancienne ne peut pas réguler. Et ces crétins d'occidentaux sur la question haïtienne, ils veulent absolument imposer leur logique sur la base de la démocratie formelle, tout en sachant que c'est une parodie. Ce pays a besoin de temps pour établir un consensus et se construire autrement. Si on continue de lui imposer cette logique de continuité de merde, on perpétue la catastrophe.
Lionel Trouillon, on arrive doucement à la fin de notre conversation. Vous organisez, vous êtes à l'initiative... d'ateliers d'écriture, d'une maison d'édition. Il y a beaucoup de jeunes auteurs que j'imagine vous fréquentez en Haïti. Ces jeunes auteurs, c'est là qu'on trouve... ils ont l'espoir, ils écrivent un peu l'espoir. Qu'est-ce qu'ils écrivent, ces jeunes auteurs ?
Ouais. Vraiment la colère, quelquefois plus d'amertume et de désespoir que d'espoir.
Ah ouais.
On est très éloigné de cette grande tradition de la poésie haïtienne que représentaient des gens comme Anthony Fels dans Mon pays que voici, René Philoctète dans Les tambours du soleil, ou Ces îles qui marchent. On vit une période de doute où Haïti ne produit pour l'instant pas de grands chants. Pas de grands chants poétiques comme ça a été pendant longtemps la tradition. On est parfois dans la colère. Il y a un jeune poète que j'ai moi-même publié qui a fait un très beau recueil en créole. Ça s'appelle « Devoir d'affrontement ». Donc, quand la nécessité de faire face, il y en a d'autres, on voit de l'amertume. Il y en a une qu'on va publier. Son recueil a pour titre « D'amer, D'AMER, hôtel AUTEL ». Elle a 22 ans. Quand vous avez une gamine de 22 ans qui vous fait un livre dont le titre c'est « D'amer, hôtel », avec des vers incroyables du genre « Je m'invente une gorge pour avaler mon cri ». Donc, vous avez cette douleur, cette violence... du ressenti, mais c'est pas un discours de l'espérance.
Mais pas d'espoir. Ouais. Lionel Trouillot, dans Bréviaire des Anonymes, paru chez Actes Sud. Je voudrais terminer avec cette petite bossue qui s'appelle Manille et qui, à un moment, dit ma bosse, je vais considérer que c'est une île. Et depuis que je dis que c'est une île, ma bosse, je le vis beaucoup mieux. Et elle dit je transforme le problème en poème.
Est-ce que c'est pas ce qu'on fait tous quelque part ? Quand on se mêle. D'écrire, on écrit avec des problèmes humains, parfois les nôtres, parfois ceux de quelqu'un d'autre, mais toujours mettre un langage sur quelque chose, c'est parler de cette chose sans la réduire à ce qu'elle a de pire. À partir du moment où il y a quelque chose de l'ordre du langage qui s'établit, il y a peut-être un fond d'espérance. Mon ami Philoctète, le grand poète haïtien, disait « L'homme n'est jamais seul alors que je vous parle et que vous m'écoutez ». Donc si vous mettez les problèmes en poème, peut-être qu'il y a une chance qu'on finisse par s'entendre et faire mieux.
Merci Lionel Trouillot.
Merci à vous.
Et bon séjour en France.
Merci.
Et moquez-vous bien des Occidentaux. On en a besoin. Ainsi s'achève Bistroscopie. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur l'application Radio France. Abonnez-vous au podcast du Bistro. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme. Merci à Stéphane Ronxin à la réalisation. Alexandre Abergel à la prise de son. Florian Dorimini au mixage. Merci à Béatrice James à la documentation. Et au service de la bibliothèque de Radio France qui nous fournit beaucoup de livres. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 avec Jean-Pierre Daroussin.